Vous écoutez
RMC.
RMC Sport Show.
François Pinet.
17h05 sur RMC, deuxième heure du RMC Sport Show, toujours avec Richard Dourte. Il est toujours là, Richard, ça va ?
Je suis toujours là, oui.
Super, en pleine forme, puisque dans un instant, on va parler du Stade français dans notre Tour de France des clubs du top 14 avec le directeur général Thomas Lombard. Et puis le capitaine de l'Union Bordeaux-Bègles, Jefferson Poirot, sera avec nous également dans une quinzaine de minutes. Donc supporter du Stade français et de l'Union Bordeaux-Bègles, vous venez au 32-16. Si vous avez des questions à poser, des remarques à faire, n'hésitez pas. Benoît Paire, qui continue de gagner à Cincinnati, c'est peut-être de bon augure à quelques jours du début de l'US Open, on en parlera avec Eric Salio, ça sera dans une trentaine de minutes. Et puis l'invité du RMC Sport Show, c'est dans 40 minutes, Eddy Potvin participe aux Jeux Paralympiques pour la première fois dans la catégorie para-canoë et c'est une bonne chance de médaille pour l'équipe de France paralympique, donc on en parlera avec lui, il sera en direct avec nous. Et puis je vous rappelle aussi que si vous voulez gagner vos places pour les 24 heures du Mans, RMC vous offre vos places dans le RMC Sport Show, il vous suffit de faire le 32-16 pour gagner vos places pour cette course mythique qui débute donc samedi prochain, le 21 et 22 août sur le circuit du Mans. Vous appelez donc dès maintenant le 32-16. Allez, on va parler de rugby avec le Stade français qui a donc réussi à atteindre les barrages l'an dernier. C'est une sorte de surprise quand même, surprise générale pour tout le monde, peut-être pas pour eux. Intersaison en tout cas animée avec 7 recrues au total. On en parle avec Thomas Lombard, directeur général du club en direct sur RMC. Bonjour Thomas.
Salut monsieur.
Je suis donc avec Richard Dourte. Une première question concernant forcément cette ambition, l'ambition cette année, est-ce que c'est de continuer à grandir ? Parce que je l'ai dit, la saison dernière s'est bien terminée, même si elle avait mal commencé.
Bah, l'idée, c'est de jouer à son potentiel. Donc, je pense qu'on a une équipe qui est capable de jouer la première partie du tableau. Donc après, on voit que c'est extrêmement serré. Hein. Je suis pas fou, j'essaie d'être lucide, je pense pas qu'on soit bien au-dessus de Toulon, bien au-dessus de Castres qui a fini juste derrière nous l'an passé, tout s'est joué sur la dernière journée. Donc voilà, l'idée c'est évidemment d'être compétitif. Quand on est le Stade français, on se doit d'avoir un certain niveau d'exigence. Mais la bataille est rude, après voilà, on s'est renforcé, on a une ambition qui date pas d'aujourd'hui hein, qu'on doit aussi assumer. Et des joueurs qui doivent jouer à leur vrai niveau, comme je le disais. Donc on a fait un premier pas l'an dernier. Voilà, maintenant il faut essayer de confirmer tout ça cette saison.
J'avais dit surprise, Richard. C'est vrai que c'était une petite surprise de les retrouver là.
Non. Non. C'était pas une surprise. C'était une surprise par rapport au parcours qu'ils ont eu.
Par rapport au parcours.
Mais par rapport à l'effectif qu'ils avaient en début de saison, c'était plus une déception de les voir mal classés qu'une surprise de les voir qualifiés. Je sais pas si c'est le départ de Gaël Ficou qui a fait que tout le monde a pris conscience du potentiel et puis voilà, de prouver que même sans Gaël Ficou, ils pouvaient se qualifier. Finalement, ils y sont arrivés. Et moi, par contre, je sais pas si tu vas confirmer Thomas, mais j'ai eu l'impression que cette qualification, c'était presque une fin en soi. Où il y avait beaucoup de fatigue accumulée et ce match de barrage, c'était très moyen.
Ben oui, on était un peu
usé.
Content d'être là.
Ouais, voilà, c'est ça.
Ce qui est à la fois normal et qui montre qu'on a une marge de progression importante. Ouais. Alors après, si on regarde l'histoire du Stade français, se satisfaire d'être en barrage, ça correspond pas à l'ambition du club. Si on regarde l'équipe qui a débuté ce barrage, y a 12 joueurs qui disputaient pour la première fois un match de ce niveau-là, un match éliminatoire sur une phase finale du top 14. Donc, on apprend. Je crois que c'est au moins cette saison, elle nous a montré que les joueurs étaient capables, si tant est qu'ils en doutaient, qu'ils avaient les qualités pour le faire. Maintenant, c'est toujours un éternel recommencement avec beaucoup d'incertitudes. Mais voilà, je l'espère que ce premier rendez-vous en barrage qu'on n'a pas très bien négocié leur restera en travers de la gorge et qu'ils auront dès la première journée contre le Racing le sentiment de devoir se racheter et d'aller chercher une saison plus régulière.
C'est ça que
on est obligé de gagner 6 matchs à la fin pour se qualifier.
Voilà, c'est ça.
Alors que c'est une saison où on a raté beaucoup d'occasions.
Hein, ce qui a manqué, ce qui a manqué à Paris l'année dernière, et tu sais, pour l'avoir vécu, c'est le début de saison qui a pas été bon. Et justement à ce sujet-là, en début de saison, si je me trompe pas, Joris Segond qui est parti en Australie et Nicolas Sanchez qui fait le rugby championship, ils vont manquer, non? C'est une question et en même temps une incertitude pour moi. Je sais pas si je me trompe ou pas.
Alors on a eu deux premiers matchs difficiles à la maison, mais on avait gagné d'entrée à Castres l'an dernier. Et ensuite, on a eu plutôt une très bonne séquence. Et c'est paradoxalement quand on a récupéré tout le monde qu'on s'est retrouvé dans le dur. Alors ça, j'ai pas d'explication rationnelle à donner à ça, mais bon, c'est un fait. Après sur la question, Joris normalement fait partie des joueurs qui n'ont pas eu une seule
joué en tournée
en Australie. Et on est confiant pour une demande de dérogation qu'on a faite
avec
notre club pour qu'ils puissent participer à la première journée. On attend des confirmations aujourd'hui de la part
Parce que sinon, vous êtes sans ouvreur, quoi, c'est ça?
Sinon.
Enfin, il y a le jeune Léo Barret.
On a le jeune Léo Barret, mais qui est concerné lui aussi par cette nécessité de congé et de repos parce qu'il a fait le tournoi des moins de 20 ans qui s'est terminé mi-juillet. Donc il est lui aussi concerné. Donc c'est sûr qu'on est dans une situation un peu inconfortable, mais je pense qu'on a été.
Tu peux jouer 10 fois, non?
Je connais la réponse.
Sinon, il y a Richard qui peut donner un coup de main aussi.
Moi, je suis trop vieux et je suis pourri. Thomas est bien plus jeune. Et c'est son joueur au pied qui fait peut-être la différence.
Je suis trop vieux et même s'ils avaient eu l'âge, j'aurais pas
pu. Voilà. Non, mais ça peut être un problème si la dérogation pour Joris Segond n'est pas là parce que finalement, poste de 10, et tu connais l'importance de ce poste-là et dans le schéma de Gonzalo Quesada qui est un ancien numéro 10. Bon, voilà, ça peut être problématique sur la première journée.
On a Arthur Coville qui peut couvrir le poste.
De une mêlée du club. Ouais.
Après, je pense que les clubs dans leur ensemble ont été très à l'écoute des différentes demandes qui ont été faites
par la
Fédération française de rugby pour mettre plus de joueurs à disposition. Bon, je pense qu'on a aussi.
On espère le renvoi d'ascenseur.
Une demande, un retour positif à attendre.
Alors, surtout qu'en plus, les trois premières journées, donc il y a ce match contre le Racing chez vous, Stade Français Racing. Ensuite, c'est l'UBB et Toulon. Alors, c'est un sacré morceau pour commencer. Contrairement à la saison dernière, évidemment, au bout de trois journées, déjà, vous aurez une petite idée de ce que vous pouvez viser.
Non,
puisque la preuve, l'année dernière.
On aura une idée sur notre état de forme, sur notre préparation, voir si elle a été bonne ou pas. Autant la saison passée, on avait repris très tôt, puisque la saison s'était interrompue mi-mars à cause du Covid et du confinement. Donc on avait pu reprendre début juin. On avait eu quasiment deux mois de préparation très intense, même si on avait été impacté par le Covid. Là, c'est un peu différent. Les joueurs ont fini plus tard. On a pas mal d'absents. Bon, c'est le lot de 90% des clubs. On a fait un premier match amical la semaine passée à Brive, qui n'était pas extraordinaire d'un point de vue de la qualité du jeu. On a réussi à l'emporter, ça donne un petit peu de confiance. On va voir ce week-end, on joue contre Montpellier à Bastia. Ça va monter un peu en exigence. On va se tester, on va avancer doucement.
Alors, vous avez joué centre tous les deux, là, Thomas et Richard. Et justement, la recrue peut-être phare de cette intersaison pour le Stade français, c'est l'international néo-zélandais, Lomapé, qui compte quand même 15 sélections avec les All Blacks. 1m71, je lisais 103 kilos, donc c'est quand même un physique particulier, qui va apporter énormément, j'imagine, Thomas.
On espère. Après, l'histoire montre que des joueurs comme ça, qui viennent d'horizons lointains, même s'ils ont une grande expérience, ont toujours besoin d'un petit temps d'acclimatation sur un championnat qui est très long, qui dispute pas. Alors, avec une intensité, on peut en discuter. Je ne sais pas si le top 14 est plus intense que le Super Rugby. Mais voilà, des défenses qui sont un petit peu différentes, un arbitrage aussi qui peut varier, donc il va falloir qu'il s'acclimate. Ce qui est sûr, c'est que voilà, il a succédé à Jonathan Danty, Gaël Ficou qui est parti. Oui, il y a une attente très forte qui repose sur lui. Mais je pense que tout lui mettre sur les épaules sera une erreur. Et il faut que les joueurs cadres qui se lèvent un peu dans ces moments-là et qui prennent le leadership, qui s'impose et qui montre l'exemple, tout simplement. On a des joueurs d'expérience dans notre groupe.
Maintenant. Alors, on a la chance sur RMC de pouvoir faire parler les supporters avec justement les dirigeants de rugby. Jacques est avec nous, supporter du Stade français. Bonjour Jacques.
Oui, bonjour.
Alors, Jacques, Thomas Lombard, directeur général du Stade français, t'écoute et nous t'écoutons avec Richard également.
Ah bon, ben voilà. Alors, je dois juste préciser que je suis supporter déjà depuis le CASG, donc ça remonte à un certain temps. Oui, oui. Et j'ai toujours été supporter parisien. Cela dit, moi, j'ai bien regretté le départ de Danty parce que je trouvais fabuleux. Cette année, il a été extraordinaire. Il a tiré l'équipe vers le haut à chaque fois. C'est dommage qu'il soit parti, mais enfin bon, c'est comme ça. Alors, quant à la nouvelle recrue néo-zélandaise, j'avoue que je ne connais pas. Et puis ce que je voudrais, parce que je rêve de ça, de retrouver les belles années d'ailleurs où Thomas Lombard jouait et encore avant avec ce trio d'Argentins qui était tellement et j'aimerais tellement qu'on soit en finale comme d'habitude contre Toulouse et qu'on gagne, mais enfin bon, ça c'était il y a longtemps. Bon, cela dit, non, pour rester sérieux, est-ce qu'on a une chance cette année avec un bon recrutement de retrouver l'élite, tout au moins d'être dans les 6?
Ah ben je crois que c'est l'objectif, Thomas.
Bah oui, j'espère.
Non mais oui, l'objectif, je l'ai dit, hein, c'est de faire au moins aussi bien que la saison dernière, ouais. Voire mieux. Maintenant, la construction des équipes, le recrutement, tout ça demande du temps. Gonzalo Quesada est arrivé l'année dernière. Ouais. Il a fait avec l'équipe qui était en place. Cette saison, il a pu, en fonction des contrats, etc., des fins de contrat plutôt, commencer à construire un effectif qui lui correspondait. On va dire que l'âge de la maturité pour un coach, c'est la troisième saison. Mmh. Donc évidemment que si on a une opportunité, on va essayer de la saisir. Maintenant, si je suis très 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 objectif, je pense qu'on est encore un peu derrière nos amis Rochelais, nos amis Bordelais, nos amis Toulousains.
Alors, si je peux t'interrompre, t'interrompre, Thomas, comment tu expliques ça justement qu'on soit derrière alors qu'on a un passé, on a une culture, on a une formation de jeunes, enfin qui s'est jamais démenti finalement, et pourquoi on n'arrive pas à être au niveau de La Rochelle qui pourtant n'a pas cette ancienneté là? Au niveau de la
ouais, mais Jacques, le passé, ça fait pas. Jacques, le passé, ça fait pas tout.
Je sais bien, on gagne pas.
Voilà, il y a eu des problèmes au Stade français, il faut reconstruire, et je crois que c'est ce que fait Thomas. Il y a eu des problèmes chez les jeunes, il faut restructurer tous les jeunes, et voilà, il faut redonner une identité au club, et c'est ce qu'ils sont en train de faire, ça se fait pas du jour au lendemain. Il y a eu un gros passage à vide au Stade français, et malheureusement, les autres, ils avancent, quoi. C'est-à-dire que quand le train passe, il faut monter dedans. Le Stade français a pris 3 ou 4 wagons de retard, ils sont en train de rattraper. Donc le passé, on peut pas se servir du passé. On se sert du passé pour pas commettre les mêmes erreurs. Voilà, non, je me permets de répondre un peu à la place de Thomas, mais voilà, j'essaie de le défendre.
Mais j'attaque pas Thomas. Moi, jamais j'attaquerai mon club de toute façon de cœur hein, depuis toujours. C'est pas ça, mais c'est que en tant que supporter, on a tellement envie de retrouver les vertus d'il y a 20 ans. Et ce jeu magnifique qu'il y avait au Stade français, je peux pas m'empêcher de le dire, hein, c'est pas pour dire qu'avant c'était mieux. Enfin, quand même, on avait des attaquants, on avait un arrière, il y avait les Argentins, il n'y avait pas que les Argentins d'ailleurs. Mais bon, c'était. Moi, je rêve de retrouver cette force-là où on faisait peur à tout le monde.
Jacques et moi, il y a 20 ans, j'avais des cheveux.
Il y avait aussi un très très gros paquet d'avant.
Ah oui, il y avait surtout,
Ah oui. Le rugby commence par la conquête. Il faut être extrêmement solide, surtout en top 14. Voilà, on est en train de retravailler là-dessus. Il y a les joueurs que vous avez, c'est-à-dire ce qui constitue vos forces vives. Donc, je parle des pros et évidemment des joueurs du centre de formation. Aujourd'hui, on est en train de retravailler depuis un an et demi maintenant la formation. On a remis des moyens, etc. Mais ce sont des choses qui demandent aller au minimum 3 ans, 4 ans avant que votre formation devienne efficiente et produise des talents. Et ensuite, il y a votre attractivité. C'est-à-dire que les grandes équipes, elles ont les meilleurs joueurs. Et les meilleurs joueurs, pour les attirer, aujourd'hui, il suffit pas d'avoir un carnet de chèques important, hein, parce que tous les clubs se battent à peu près avec les mêmes moyens, puisqu'il y a 11 clubs aujourd'hui qui sont au seuil du salary cap. Donc ça veut dire que quand on dit le Stade français, c'est le plus riche, c'est pas vrai. Le Stade français, c'est pas le plus riche. Le Stade français, il est pas plus riche que les 10 autres clubs qui sont au seuil du salary cap.
Donc voilà, et l'attractivité, elle se fait principalement par les résultats, par la culture du club. Donc Richard le disait, le club a traversé des périodes un peu difficiles ces derniers temps. Voilà, là on redevient un petit peu attractif, on arrive à attirer des joueurs grâce à notre staff, à notre culture d'équipe, mais tout ça demande un petit peu de temps.
Ok, ben on va remercier Jacques. Merci Jacques, j'espère que tu as été convaincu par le discours de Thomas Lombard.
Moi je suis toujours convaincu par Thomas Lombard, que je suis toujours considéré comme un fabuleux joueur.
Est-ce que tu seras le 4 septembre, Jacques, pour Stade Français Racing?
Pardon?
Tu seras là le 4 septembre pour Stade Français Racing?
Ah ben, moi,
le première 4, journée.
Si j'ai le droit d'y aller, si au niveau sanitaire, on peut se déplacer, moi j'y vais, alors, bien sûr.
Bah, retour alors, du public,
j'en profite. Oui. J'en profite parce que oui, Jacques. Oui, vous pouvez venir. Il faut que les gens le sachent parce que aujourd'hui on voit les campagnes d'abonnement, en tout cas au Stade Français, pour le en avoir parlé avec quelques autres présidents, démarre pas forcément de la meilleure des manières, ou en tout cas il n'y a pas une énorme envie. Voilà. Oui, on peut venir au stade à condition d'avoir soit d'être vacciné, soit de présenter un test PCR négatif. Les stades aujourd'hui sont ouverts au public et tous les clubs font le maximum pour pouvoir accueillir les gens dans les meilleures conditions de sécurité sanitaire et surtout pour les retrouver, parce qu'un an et demi sans public quasiment, ça commence à faire beaucoup.
Exactement.
Allez au stade, messieurs, mesdames, allez au stade, ça fera plaisir aux joueurs et aux dirigeants, parce qu'on en a besoin dans le rugby.
Grand spectacle, évidemment. Merci beaucoup Thomas Lombard, merci d'être passé.
Merci à vous, messieurs.
Merci Thomas,
à très bientôt,
salut.
Et bonne saison avec le Stade Français. Merci à Jacques donc d'être passé, et tu vois Jacques, tu peux venir donc le 4 septembre, Stade Français Racing 92, je le précise, pour le premier match de la saison du Stade Français. Après il y aura UBB Stade Français et Toulon Stade Français pour un très beau début de saison. Dans un instant, Jefferson Poirot, pilier et capitaine de l'Union Bordeaux-Bègles, est en direct avec nous dans le RMC Sport Show. Si vous êtes supporter de l'UBB, vous venez lui poser des questions. Il vous attend, à tout de suite.
RMC Sport Show, François Pinet.
Il est 17h26, vous êtes sur RMC, toujours à l'écoute du RMC Sport Show et toujours avec Richard Dourde. Dans un instant, on va parler tennis puisque Benoît Paire a l'air de s'amuser à Cincinnati. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu, aussi heureux. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour l'US Open qui débute dans quelques jours? On sera dans 15 minutes avec Eric Salio pour en parler. Arnaud, bravo à Arnaud qui a remporté ses places pour les 24 heures du Mans. On vous les offre toute la semaine sur RMC, dans le RMC Sport Show. Il y aura d'autres places à gagner demain, donc soyez présents. C'est le 32-16 qu'il faut faire pour récupérer vos places pour l'événement du week-end. Allez, on continue notre tour des France des clubs du top 14. Après le Stade Français, l'Union Bordeaux-Bègles au programme. L'Union Bordeaux-Bègles, demi-finaliste du top 14 et demi-finaliste de la Coupe d'Europe l'an dernier. Une très très belle saison. On est avec Jefferson Poirot, le capitaine de l'UBB. Bonjour Jefferson.
Bonjour.
Je suis avec Richard Dourde. On a, avant de parler de votre belle saison passée et des ambitions du club, une mauvaise nouvelle malheureusement pour commencer la semaine, puisqu'on a appris la grave blessure au genou de Jules Gimbert, demi-mêlée, lors de l'Inextinso Super 7, un événement de rugby à 7, rupture du ligament croisé. Bon, j'imagine que ça a dû être un coup de massue, un coup dur pour vous d'apprendre tout ça.
Ouais, c'est un coup de massue d'apprendre ça, surtout pour lui, parce que c'est un joueur qui depuis 2-3 ans s'entraîne avec nous. L'année dernière, il a fait une bonne partie de la saison, je crois qu'il a fait une quinzaine de matchs. Donc c'est un joueur qui commençait à prendre du poids dans l'effectif. Donc bon, c'est une très mauvaise nouvelle pour le club et aussi pour lui qui est en pleine ascension. Donc voilà, on lui souhaite surtout bon rétablissement et puis on va essayer de passer cette période sans lui au mieux pour qu'il puisse revenir dans les meilleures conditions sur la fin de saison.
Ouais, c'était une saison historique l'an dernier pour l'UBB. Pour la première fois de votre histoire en phase, vous êtes qualifié pour la phase finale. Est-ce que vous avez justement eu le sentiment, Jefferson, avec tout le groupe, de passer un cap, d'avoir vraiment passé un cap la saison dernière?
Oui, on a le sentiment d'avoir passé un cap. Maintenant, on a aussi... ça nous a aussi mis en lumière tous les efforts qu'il fallait faire pour arriver jusque là. C'est des efforts qui, je pense, auparavant, on n'avait pas forcément fait. Et justement, on a pu s'apercevoir de tout le travail qu'il fallait effectuer pour arriver à ce niveau. Donc maintenant, à nous de remettre le bleu de chauffe, de repartir au travail. Et puis voilà, on va essayer de reconstruire notre saison comme ça. En tout cas, j'ai l'impression que l'effectif a vraiment ce parcours en tête, a vraiment cette expérience dans un coin de la tête et j'ai l'impression que ça va nous servir pour cette année.
Richard, t'avais été impressionné toi par le parcours justement de l'UBB l'an dernier?
J'ai été, en fait, c'est une très bonne saison, mais enfin, Jeff il va confirmer, mais on a l'impression qu'elle est ratée parce que vu la saison précédente où il dominait le championnat, malheureusement qui s'est arrêté, ben on s'attendait, enfin moi je m'attendais à ce que Bordeaux ben aille beaucoup plus loin. Et alors est-ce que c'est la bête noire, le Stade Toulousain qui est en championnat vous va pas? Alors qu'est-ce que tu en penses toi, Jeff? C'est vrai qu'on s'attend. C'est une super saison, hein, mais il y a un goût d'inachevé par rapport à la saison précédente. Qu'est-ce que tu en penses?
Ouais, alors la saison précédente, elle n'a pas été à son terme. Donc
non, voilà, ouais. Mais elle était dominée par l'UBB, on est d'accord.
Mais voilà, on avait dominé les débats. Après, sur les phases finales, ça aurait été différente. Après, moi, je suis assez d'accord là-dessus. On a un goût d'inachevé, nous aussi.
Voilà, c'est ça.
Après, on a cherché à relativiser aussi. On a cherché à prendre un peu de hauteur, à se dire, bon... Finalement, on l'avait jamais fait, donc c'est une bonne chose.
Ouais, c'est ça, Jeff. C'est vrai, ce qui est marrant, Jeff, c'est que, excuse-moi, c'est que le goût d'inachevé, quand tu fais deux demi-finales, bon, enfin, moi, j'ai jamais fait de finale de championnat, mais j'ai fait que des demi-finales et c'est déjà très bien, quoi. Mais ça vous laisse un goût d'inachevé, quoi. C'est ça, qui est paradoxal.
C'est ça. Je suis d'accord. C'est qu'au final, deux demi-finales, c'est bien, mais à la fin, on n'a rien du tout, quoi.
Ouais, ouais. Donc, dommage, ça vaut zéro.
C'est un peu ce sentiment-là. Dans 20 ans, on se souviendra pas qu'on a fait deux demi-finales. Donc, voilà, c'est de là aussi où est le goût d'inachevé, où j'ai l'impression, en tout cas, que cette année, ça nous titille et qu'on se dit, bon, on a été jusque-là, on sait les efforts qu'il a fallu faire pour aller jusque-là, on va se remettre au travail, on va essayer de faire mieux, quoi.
En plus, vous étiez pas loin, demi-finale du top 14, vraiment, par rapport à Toulouse, hein. Ça s'est joué à trois petits points et vraiment à pas grand chose. Qu'est-ce qui manque encore peut-être à l'UBB justement pour titiller encore plus les gros bras du championnat, et on pense évidemment au Stade Toulousain.
Mais qu'est-ce qui manquait pas justement cette expérience? Voilà, on est arrivé un peu nouveau, même si on a joué sans complexe. Mais j'ai toujours en tête moi la première demi-finale qu'on joue, celle qu'on joue à Bristol en Challenge Cup. Et je suis persuadé que si cette compétition l'avait remportée, ça aurait changé beaucoup de choses dans notre saison. J'ai vraiment ce sentiment de me dire, je suis sûr que si on avait déjà pour la première fois réussi à avoir un titre, mais peut-être que dans notre parcours on aurait été différent, peut-être que sur certains petits détails où on a joué peut-être avec la peur de mal faire, ben on aurait peut-être bien fait parce qu'on se serait libéré. Donc maintenant on a cette expérience des phases finales et on espère que ça va nous servir cette saison, quoi.
En plus, dans le recrutement, vous avez gardé quand même une ossature assez intéressante, hein, de votre club. Donc, il n'y a pas de grand nom. C'est vrai que peut-être que l'UBB avait habitué ses supporters à ce qu'il y ait plus de grands noms ces dernières années. Là, c'est pas le cas. Bon, il y a François Trinduc qui va vous rejoindre, qui vous a rejoint. Et puis, des jeunes joueurs. Donc, c'est vrai que vous gardez quand même cette ossature. Ça, c'est aussi une force, j'imagine.
Ouais, on garde une ossature, donc là on s'est aperçu que sur le début de saison, bah au final tous les systèmes étaient vite intégrés. Après pour le recrutement, ben bah, je trouve que ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'en plus de garder la plupart de nos joueurs cadres, on accueille de l'expérience avec un François Trinduc, un Louis Picamol aussi qui va faire une saison complète, et ensuite on a récupéré surtout des jeunes qui me paraissent quand même très intéressants, parce que sur les premiers entraînements, c'est des mecs qui ont très vite intégré, c'est des mecs qui sur les entraînements sont assez bluffants de leur capacité à se mettre au niveau. Donc quand je pense à Alban Roussel ou à Bastien Vergne, c'est des jeunes qui je pense vont nous apporter beaucoup et aussi vont challenger le groupe, et ça va apporter encore un peu plus d'émulation, et c'est une bonne chose.
Alors Jefferson, on va accueillir à 17h32 pour parler de l'UBB Maxime, qui est supporter de l'UBB. Bonjour, oui. Maxime.
Bonjour à tous, salut Jeff.
Bonjour.
Alors, qu'est-ce que tu voulais dire à Jefferson, ou quelle remarque tu voulais faire justement sur sur ton club?
Non, mais c'est sur mon club. Moi, après, ça, je partage assez. On est dans une certaine continuité l'année dernière avec une ossature qui est assez semblable. Alors, il y a eu quelques. Moi, j'ai quelques inquiétudes juste sur la troisième ligne, parce qu'avec la retraite de Scott et Marco qui est parti du club, c'est là où je sens qu'on est peut-être le plus un peu faible. Donc, je ne sais pas encore s'il y a des choses qui sont prévues du côté du staff ou autre pour un peu garnir. Garnir ses postes, mais après non, on a des arrivées intéressantes, et surtout on garde une ossature solide. Bon, mais au niveau de la charnière, la blessure de Jambert, c'est vrai que ça peut-être pas nous arranger, parce que c'est quand même pas une petite blessure. Mais par contre, au niveau des trois quarts, pour le reste, on a on attend le retour de Moefana, mais on a des jeunes comme Nathanaël Hueux qui sont très bons, comme disait Jefferson tout à l'heure, voilà, il y a eu la saison Covid où on a dominé les débats et entre guillemets, ben, on n'a pas eu ce cap d'aller en top 6 ou autre, même si on était, ouais, était large. Mais par contre, l'année d'après, on fait 3 demi-finales, ouais, on les perd. Va falloir qu'on règle ça avec nos amis toulousains quand même un de ces jours, parce que voilà, hein. Mais non, une continuité assez, voilà. Après j'ai suivi un peu la préparation. Alors je sais pas, vous êtes toujours à Souston ou pas, Jefferson?
Oui, ouais, on est à Souston encore jusqu'à demain, et après on s'envole pour Lille pour jouer à Biarritz, ouais, ouais, du coup.
Pour répondre à l'inquiétude au niveau du poste de troisième ligne, bon, c'est vrai que Marco Tolin est parti, c'est vrai que Scotty Guimota a arrêté, mais Alexandre Roumat peut faire un très bon numéro 8, non, me semble-t-il, Jeff?
Ouais, Alex a joué un peu 8 la saison dernière, a fait de super matchs. Je pense que c'est ce qui est un peu prévu de le faire glisser sur ce poste. Après, on avait déjà une troisième ligne très complète sur les ailes, donc on va pouvoir utiliser Alex qui, lui, est un 8 de formation. Et aussi, comme je disais tout à l'heure, Bastien Vergne qui a fait une très grosse saison en Pro D2 et qui, je pense, Kobe, va amener toute sa fougue. Et voilà, c'est un garçon qui est assez gaillard, hein, qui est un perce-muraille, en tout cas sur ce qu'on a vu sur le début des entraînements. Je pense que c'est un profil intéressant et qui va nous apporter un 8.
Donc Biarritz, UBB, ça c'est un match amical à Lille, c'est ça, le 20 août prochain. Justement, il y a le retour du public aussi, qui est quand même quelque chose d'important pour tous les clubs de top 14, pour les finances, mais aussi pour vous, j'imagine, joueur Jefferson, avec l'événement, le retour au stade Chaban-Delmas du public pour le match officiel contre le Stade Français, ça sera le 11 septembre. Vous attendez,
ouais,
ça avec impatience. Oui,
UBB faisait partie des plus grosses affluences du top 14. Hein, à Chaban, il y avait entre, en moyenne, je pense, 20 000 personnes.
La plus grosse,
voilà. Donc, c'est vrai que jouer dans un stade vide, ben, c'est pas pareil que dans un stade qui est complètement acquis à la cause de l'UBB. Voilà. Et que ce soit l'UBB, Bayonne, Toulon, Toulouse, enfin, c'est, voilà, je refais passer le message, messieurs, mesdames, les enfants en famille, repartez au stade avec votre passe sanitaire ou votre test PCR parce que c'est ouvert. Abonnez-vous et revenez dans les stades, ça fera plaisir à tout le monde, à vous et aux joueurs.
Voilà. Jefferson, j'imagine que vous attendez ça avec impatience, bien sûr.
Et ouais, on attend ça avec impatience. C'est vrai que ça a été très long la saison dernière. Et puis, comme le dit Richard, on est un club où on a la plus grosse affluence d'Europe depuis plusieurs années. Et au final, nous, on a été privés de nos supporters. Donc, pour le coup, vu l'engouement qu'il y a autour de l'UBB, vu la communion qu'il y a entre les joueurs et le public au quotidien, c'est quelque chose qui nous a énormément manqué. Je suis sûr que cette année, ce sera un atout supplémentaire pour nous.
Alors, il y a quand même une question que je dois vous poser, forcément, même si je sais que vous avez annoncé votre retraite internationale. L'an dernier, la Coupe du Monde approche, ça sera en France en 2023. Est-ce qu'à l'approche de l'événement, il y a une petite chance de revoir Jefferson Poirot sur maillot bleu?
Mais ça, c'est pour moi, j'ai annoncé mon retrait, donc je vais pas vous dire aujourd'hui.
Je sais pas, on peut peut-être se dire qu'on a envie de changer. Je sais pas, peut-être on a le droit de changer d'avis.
c'est vrai qu'on a le droit de changer d'avis, mais voilà, pour l'instant, je suis focalisé sur mon club, sur le pourquoi aussi j'ai pris un peu de retrait par rapport à l'équipe de France. C'est gagner des titres avec l'UBB, donc j'espère que ça arrivera prochainement et puis on verra par la suite.
D'accord, bon, ok, donc on verra par la suite. Ça veut pas dire que vous fermez totalement la porte à un retour. Je suis embêtant, mais bon, j'ai quand même souligné tout ça. Merci beaucoup Jefferson en tout cas d'être passé. Merci beaucoup et belle saison avec l'UBB. Très bientôt sur RMC. Merci Maxime d'avoir fait le 32-16. On te remercie Maxime, tu reviens quand tu veux bien sûr sur RMC pour parler rugby avec Richard Dourte. Richard, si tu veux bien, on va parler tennis maintenant dans le RMC avec Sport Show. Et on accueille Eric Salio qui est avec nous. Salut Eric.
Salut à tous.
Pour nous parler du Masters 1000 de Cincinnati, c'est une sorte de grande répétition générale avant l'US Open. Pourquoi on va en parler avec toi aujourd'hui? Parce qu'il y a un Français qui se montre plutôt à son avantage, c'est Benoît Paire, Eric, qui a battu Chapovalov la nuit dernière.
Ouais, c'est une grosse perf. C'est une grosse perf parce que Chapovalov est top 10, donc ça faisait très longtemps qu'il n'avait pas battu un joueur aussi fort. Et surtout, ça marque, j'ai envie de dire, son vrai retour sur le circuit, c'est sa signature, parce que il a traversé avec beaucoup de difficultés, vous l'avez noté, cette période Covid avec ces fameuses bulles qu'il déteste. Et là, on a l'impression que il revit. Et on est content pour lui parce que pour avoir assisté à des interviews Zoom, puisque il y a comme ça qu'on peut communiquer avec les joueurs de tennis maintenant. Il était très malheureux, mais là on a l'impression que ça, on est en train de retrouver le vrai Benoît Paire.
C'est ce qu'on disait d'ailleurs avec Richard à l'instant en parlant de rugby. Hein, Richard, c'est vrai qu'on se disait que ça, pour les sportifs, c'était très important d'avoir du public, et particulièrement en plus en tennis où là t'es carrément tout seul face à toi-même. T'as sans doute pour certains besoin vraiment du public plus que d'autres.
Ouais. Oui, et puis Benoît Paire, c'est un show, quoi. C'est il est bouillant, quoi. Il a besoin du support du public. C'était un nerveux un petit peu comme moi, je l'étais, et c'est vrai que en parlant poliment, ça le faisait chier d'être tout seul dans sa chambre d'hôtel, ça le faisait chier de faire des tournois tout seul, et en fait il se faisait chier être sur le terrain, et ses résultats ça ressentait, puisque pendant 2-3 mois il faisait le premier tour et puis s'en va sans même jouer. Enfin voilà, après il est comme il est, il faut le prendre comme il est. Bon, il a des très mauvais côtés, mais là il est sur ses très bons côtés, et c'est peut-être de bon augure pour l'US Open parce que cette surface lui convient bien, et puis il a du talent, quoi. Moi c'est ce que je pense, il a du talent. Si les planètes sont alignées, il peut faire de très bonnes performances. Un petit peu à l'image d'un Fognini italien.
Je redeviens le Benoît Paire que j'étais. Voilà ce qu'il a dit effectivement après cette victoire contre Chapovalov. Est-ce qu'on peut croire à des belles choses pour lui à l'US Open, Eric?
À l'US Open, c'est un tournoi du Grand Chelem, c'est ouais. Hyper relevé. Il sera probablement pas tête de série, donc ça veut dire que le tirage au sort évidemment sera déterminant. Mais ce qui est agréable de voir, c'est qu'il retente des coups fantastiques. Il fait quasiment à chaque match maintenant, on ressort un hot shot. Alors il y a ces amortis géniales qui sont la plupart du temps rétro, qui sont totalement intouchables. Donc ça veut dire qu'il est bien dans sa tête. Mais ce toit de Cincinnati, il est assez bizarre parce que le site est à 30 km du centre-ville, et à côté il y a une immense fête foraine, enfin un parc d'attractions. Dans laquelle les joueurs adorent aller. Donc lui, son kiff, c'est de faire peut-être pas les montagnes russes parce que c'est dangereux, mais d'aller faire un bowling avec sa petite copine. Et ça change tout pour lui. Lui, c'est un garçon qui a besoin de liberté. Et la semaine dernière, au Canada, c'était très strict. Il n'a pas très bien joué. Et comme par hasard, il rejoue bien dans des conduits où dans un endroit où il n'y a plus de bulles. Et c'est aussi le cas d'un autre de nos showman, c'est Gaël Monfils.
Ah bah oui, Gaël Monfils.
Exactement, si ouais, ça a été. Voilà, ouais, je l'ai lu. Supporté par le public, et voilà, ils revivent un petit peu les joueurs. Mais par contre, excuse-moi, est-ce que les contraintes sanitaires à l'US Open, parce qu'on sait qu'ils sont assez durs, que ça avait été un peu la merde l'année dernière, ça va pas être la même chose pour ce tournoi du Grand Chelem?
Non, ça va être beaucoup plus cool, puisque.
Beaucoup plus cool, parce que l'année dernière c'était compliqué.
Le public sera complètement admis. Dans le stade de Flushing Meadows, donc ça va déjà tout changer, parce que l'an passé on s'en souvient, ils jouaient vraiment à huis clos. Non, ça va changer. Alors il y a même une petite polémique, parce qu'on sait que les Américains sont stricts, et ce sera pas le cas, mais normalement il y a un moment où il faudra que tous les joueurs soient vaccinés. Et il y a eu une petite polémique avec Stefano Tsitsipas, qui a été interrogé là-dessus, qui a dit: moi pour l'instant je suis pas vacciné tant que c'est pas obligatoire. Je pense que les sportifs devraient quand même montrer l'exemple, parce que
je suis d'accord
ça peut changer des choses quand même.
Parce que l'année dernière, on avait eu des tennismen français, que je sais plus, qui avaient été contraints et forcés de rester à l'hôtel. Je crois que c'était pas Benoît Paire, mais...
Si, Benoît Paire aussi.
C'était Benoît Paire, voilà.
Benoît Paire avait été pris positif.
Ouais. Voilà, il pouvait pas jouer.
Il pouvait pas jouer, et il avait mis dans le lot certains joueurs avec lesquels il avait joué au kart.
Oui, c'est ça. Ouais.
Voilà, c'est
et
ça.
Eux avaient été cas contact.
Ouais.
Voilà. Et donc ça avait été terrible. Ils étaient restés 15 jours dans l'hôtel.
C'était lourd.
Avant l'US Open, donc tu voulais nous dire un mot quand même de Gaël Monfils, justement, à Cincinnati, qui a passé le premier tour en battant Lajovic.
Il va jouer tout à l'heure contre l'Australien Demi-Nord. Et s'il l'emporte, eh bien, il va enregistrer sa 500e victoire sur le circuit. C'est une belle marque, mais pour l'instant, et je vous pose une petite devinette, il y a un joueur français qui est devant lui en activité, c'est...
Wilfried Tsonga ?
Eh non, c'est Richard Gasquet.
Ouais.
C'est Richard Gasquet qui est très loin devant.
Ah, très
qui
loin
lui a perdu le premier tour.
Ouais, d'accord. Après, il faut faire le ratio de victoire défaite.
Il serait le 11e joueur en activité à enregistrer 500 victoires. Donc, voilà, c'est vrai qu'il a 34 ans, il commence à bien connaître le circuit. Mais bon, ça c'est un détail, c'est une stat. Hein. Ce qui est surtout intéressant, c'est qu'il rejoue très bien au tennis.
Ouais.
Alors, c'est pas anecdotique que c'est 500 victoires.
non, c'est un beau chiffre.
Franchement,
ouais,
c'est une stat, mais c'est un beau chiffre.
Alors justement, puisque on parle des Français, bon, Corentin Moutet, Hugo Humbert éliminé. Chez les femmes, Caroline Garcia a passé le premier tour à Cincinnati en battant Sloane Stephens, l'américaine. Et puis on a appris aussi pour l'US Open, eh bien, le forfait de Dominic Thiem. C'est une des dernières informations en date. Forfait pour l'US Open, il a annoncé ça. Autrichien, blessure au poignet pour le numéro 6 mondial. Bon, il n'y aura plus personne à ce rythme-là à l'US Open. Eric,
bah, c'est le tenant du titre. Hein. C'est le tenant du titre. Donc,
il était peut-être dans le tableau de Benoît Paire, c'est bien pour nous.
mais ça ne va rien changer pour Benoît. Mais non, c'est terrible pour Dominic Thiem parce qu'il avait déjà eu un début d'année compliqué et puis il s'est blessé au poignet juste avant Wimbledon. Il avait tout fait pour essayer d'être présent pour l'US Open, mais là il a repris l'entraînement et il a dit j'ai de nouveau ressenti une douleur. Donc rideau sur la saison 2021 pour Dominic Thiem. On attend, à mon avis, dans les jours qui viennent, l'officialisation du forfait de Rafael Nadal. Donc Richard a raison, il y aura que deux anciens vainqueurs au coup d'envoi de l'US Open, enfin selon moi, hein, Novak Djokovic et Marin Cilic. Donc ça va être un tournoi très ouvert
et très intéressant du coup. Merci beaucoup Eric.
À bientôt.
À très bientôt pour parler tennis, bien sûr, sur l'antenne d'RMC. On revient dans un instant avec Richard Dourte dans le RMC Sport Show avec notre rendez-vous paralympique. Eddy Potvin, athlète qui va participer aux Paralympiques la semaine prochaine à Tokyo pour la première fois. Et il va faire ses Jeux Paralympiques dans la catégorie du paracanoë. Il sera notre invité dans quelques petites minutes. À tout de suite.
RMC Sport Show, François Pinet.
17h48 sur RMC. Encore quelques minutes à passer ensemble avant de passer la main à Jean-Louis Tour et Coach Courbis, il me semble, pour le RMC Football Show à partir de 18h. On est toujours avec Richard Dourte, bien sûr. On va faire notre petit rendez-vous paralympique parce qu'on a décidé depuis le début de la semaine de mettre en avant des athlètes français qui vont participer à ces Jeux Paralympiques. C'est à Tokyo, c'est dans une semaine. Et on est en direct avec Eddy Potvin. Bonjour Eddy. Oh,
bonjour messieurs, bonjour à tous.
Merci beaucoup bonjour, d'être Eddy. Avec nous, d'avoir accepté notre invitation. Vous allez participer à l'épreuve de paracanoë, donc, pour la France. Vous partez quand à Tokyo ?
Je pars samedi, là, 13h.
D'accord, samedi à 13h. Donc j'imagine qu'il y a une sensation quand même assez agréable de pouvoir se dire que vous allez participer à vos premiers Jeux Paralympiques.
Ouais, c'est une fierté. Bon, après, à 41 ans, bon, je suis plus un gamin, mais bon, c'est quand même une fierté. Et puis, j'attends ça depuis un moment. J'ai travaillé dur et j'ai vraiment hâte d'y être tout en restant patient. Et il faut savoir être prêt au bon moment, quoi.
Bah, vous avez été patient parce qu'il y a eu ce report des Jeux. Ça vous a un peu peiné ?
Ouais, surtout, bah, peiné. Ça m'embêtait parce que, disons, en 2019, en plus, j'avais loupé le quota. Je partais un peu pour être champion du monde. Je passe au travers. J'étais un petit peu fatigué. Et 2020, je m'attendais à aller décrocher le quota. J'étais fin prêt. On reporte les Jeux d'un an. Mais aujourd'hui, sur le coup, ça a été dur à avaler parce qu'il y a des choix forcément professionnels. Pour être à ce niveau-là, même en paralympique, il faut aujourd'hui moi, je travaille plus, je fais plus rien. J'ai mis ma carrière immobilière, entre guillemets, pour pouvoir me consacrer à ma discipline. Hein. Sinon, c'est pas possible d'être dans le top 5 mondial. Et si vous voulez, quand j'ai appris ce record des Jeux d'un an, bah, ça a été difficile sur le coup. Et puis aujourd'hui, je me rends compte qu'en fait, c'est bien. Parce que même si j'ai 41 ans, j'étais quand même assez jeune dans la discipline. J'ai commencé qu'en novembre 2017, donc ça me fait un an de plus en fait. Donc c'est pas plus mal. Aujourd'hui, avec le recul, c'est pas plus mal.
Et vous m'avez dit, donc vous avez mis entre parenthèses votre autre métier en fait, votre métier. C'est ça, vous êtes dans l'immobilier.
Oui, j'étais dans l'immobilier, j'avais bon, les agences, tout ce qui va
et
bien.
Et vous avez tout arrêté ?
Ouais, du jour au lendemain, en fait, il y a eu un concours de circonstances. Et puis, comme j'avais dit à mon épouse Camélia à l'époque, j'allais avoir 38 ans, j'avais mon deuxième fils Arsène qui allait arriver, j'avais déjà Oscar qui avait 5 ans et demi. Et je lui ai dit, écoute, j'en ai un peu ras-le-bol, avant d'arriver à faire un burn-out ou d'arrêter, j'en avais ras-le-bol. Je travaille depuis l'âge de 17 ans. Et j'avais cette opportunité-là, paralympique. Bon, je pars quand même de loin parce que j'avais pris un peu de poids. Hein. L'immobilier, c'est pas le sport de haut niveau. On mange bien au resto. Et j'étais plutôt bon vivant. Donc, je repartais plutôt de 120 kilos que de 85 comme en ce moment. Donc, il y a eu un peu de taf déjà au début. Et puis, je m'y suis vite remis. Et puis, j'ai dit, si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais. Donc, c'est un petit peu, comme je dis souvent en rigolant avec les amis, ma crise de la quarantaine à moi. Donc, c'est une bonne crise.
Et quels sont les objectifs, du coup, à Tokyo? Parce que vous avez quand même un palmarès assez sympathique. Troisième du championnat d'Europe en 2019, en 2021. Triple champion de France en 2020. vous faites partie des chances de médaille française. Il faut aller chercher la médaille, du coup.
Ouais, bah, j'ai fait, en 4 ans, en fait, j'ai eu une ascension assez fulgurante. J'ai fait 6 médailles, enfin 6 podiums internationaux, 9 titres de champion de France. Et en fait, après, c'est pas être prétentieux, mais je suis assez, enfin, voilà, c'est être réaliste. J'annonce pas ce que je vais faire, mais moi, je pars dans le but toujours de, à chaque fois que je prends le départ d'une course, je la fais pour la gagner. Je la fais pas pour être deuxième ou se dire, je vais sur le podium. Mais à Tokyo, ce qui compte et ce qui sera très important, c'est d'être dans l'instant présent au moment clé, quoi. Il y a déjà la série. Oui. La série, peut-être la demi et ensuite la finale. Donc chaque chose en son temps. Mais voilà, je dis pas que je vais tuer tout le monde, mais je ferai tout pour donner, pour ramener une médaille à la France et puis ramener une médaille chez nous.
Eddy, bonjour Richard Dourte. Est-ce que vous pouvez raconter tous les efforts qui ont été les vôtres pour passer de 120 kilos à 85? Parce que là, quand même,
Je
suis sportif, on est sportif de haut niveau tous les deux.
C'est pour toi, Richard.
J'ai changé de catégorie. Non, moi ça va, je suis qu'à 105 kilos. Ouais. Donc j'ai encore... Mais parce que là, c'est ouais, parce que le bateau à 120 kilos, il flotte moins bien qu'à 85, non?
Bah, pour être franc avec toi, je rentrais même pas dedans. Quand le premier bateau est arrivé, que j'ai commandé, j'avais commandé les deux avec mon ami Antoine et qui je m'entraîne tous les jours. On avait commandé les deux bateaux sur un coup de tête un dimanche et on s'était dit, voilà, les champions de France cette année, on achète deux bateaux, on s'y met à fond et je bossais encore à l'époque. Je te dis, j'étais pas loin de 120 kilos avec une jambe en moins. Donc, si tu rajoutes la jambe, ça fait 125. Pour 1m81, j'avais pris beaucoup de poids. Je m'étais laissé aller. Bon, on va dire que j'avais profité de la vie après l'accident, mais pas dans le bon sens. Et en fait, ça a été déjà de perdre du poids pour rentrer dans le bateau. J'ai dû rentrer dedans, je crois, quand je faisais 105 kilos. Donc, il y avait déjà 15 kilos à perdre. Donc, beaucoup de muscu, beaucoup d'ergomètres. Bien sûr, l'alimentation, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Et puis, au fil du temps, j'ai perdu. Et puis, j'ai retrouvé mon poids de forme que j'avais avant. Avant, on va dire que j'ai toujours été bien portant quand j'étais valide. Je faisais 90, 95 kilos. Et voilà, je suis redescendu à 85. Je suis affûté comme jamais. Mais c'est vrai que c'était un beau challenge.
Comment vous êtes arrivé au paracanoë après votre accident? C'est un accident de moto, hein, qui a causé. Vous avez perdu une jambe. Comment vous êtes décidé à faire du paracanoë? Parce que vous étiez spécialiste du motocross, si je me trompe pas.
Ouais, je faisais du motocross depuis mon enfance. C'est une passion qui m'avait été inculquée, logiquement, un peu comme tous ceux qui font du cross, hein, par mon père étant gamin. Et si vous voulez, j'ai eu un grave accident, concours de circonstances. Enfin bref, c'était en vieillissant, je m'étais spécialisé un petit peu dans les courses de sable, qui sont des courses un peu plus endurante et plus longue. Forcément, vieillissant, on est un peu moins explosif. Et en fait, je vous dis qu'on compte circonstances. L'ambulance qui s'enlise, l'hélicoptère en retard, mauvais diagnostic dans le premier hôpital. Le deuxième, j'arrive un peu tard. Et puis, au bout d'une semaine, ils décident de couper la jambe. Je passe 15 jours à Lille et je me retrouve ensuite au centre de réadaptation fonctionnelle chez moi, Charleville-Mézières, à Warcq. Et en fait, il y a une initiation qui est prévue. Et le mec vient me voir, le kiné, et il me dit « Tiens, on voit que tu rames du matin au soir sur le rameur Concept 2, t'arrêtes pas, tu fais de la muscu. » Il me dit « Est-ce que ça te dirait d'aller essayer un sport paralympique ?» Et puis bon, moi j'avais du mal à accepter l'handicap. Hein. Quand vous perdez une jambe, que tout va bien dans votre vie à 34 ans comme ça, c'est difficile de se dire « Mais je vais faire du paralympique », surtout avec un sport comme le motocross, qui est quand même très rythmé et avec beaucoup d'adrénaline et on prend beaucoup de risques. Donc je lui dis « Ça dépend quoi critique personne ni aucune discipline, mais je lui dis ça dépend quoi. Moi, je viens de la moto, il me faut un truc qui bouge. Et il me dit l'aviron. Je lui dis, écoute, moi, j'adore l'aviron parce que je fais du concept, tout ça, mais je lui dis l'aviron, ils vont à reculons. Et moi, dans la vie, je veux avancer, je veux voir où je vais. Donc, je lui dis, ça me va pas. Et le mec revient un quart d'heure après, il me dit, je me suis trompé, c'est du canoë, en fait, ça te plaira? Moi, je dis, allez, on essaye. Et en fait, j'ai déboulé à la base nautique. Et puis, l'entraîneur du club, qui est Pierre Serbel, qui est un ami et que je connaissais déjà avant, on va dire que ça lui a tapé dans l'œil. Il s'est dit, mince, il vient de la moto, il a un bon physique, il est pas fou, il sait ce que c'est que de s'entraîner, il sait ce que c'est que de faire du bon niveau, il en a fait en moto depuis qu'il est petit, il connaît la rigueur du sportif, donc pourquoi pas, quoi. Et ça s'est enchaîné comme ça.